Low Carbone Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Low Carbone Construction. Low Carbone Construction, en bon français, réduire notre impact carbone, notamment sur le vivant. Et justement, ça va être le thème du jour, biodiversité, avant, pendant et après le projet, comment faire vivre le vivant. Petite définition, mais on aura nos experts, bien sûr, pour souligner ce qu'est la biodiversité. En tout cas, elle désigne l'ensemble des êtres vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Alors, quel rapport avec le bâti et avec Bâti Radio? Et bien justement, quand on crée la ville, quand on crée des bâtiments, il y a un milieu vivant avant, mais il y a aussi un milieu vivant après. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ces projets? Comment on fait cette transformation? Ce sont autant de questions qu'on va poser à nos experts. On est ravis d'accueillir en plateau Jeanne Godin. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission écologie urbaine à la ville de Nanterre et experte de ces sujets. Bienvenue à vous. À vos côtés, Pierre Darmé. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Habitué de ce studio, directeur marketing, communication et développement commercial au Jardin de Gailly. Bienvenue à vous. Guillaume Loiseau, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur de Bâtimat, du Mondial du Bâtiment et de Bâti Radio, accessoirement. Bienvenue Guillaume, qui posera un regard aiguisé justement sur ce thème, comme d'habitude. Et puis à distance, il est également avec nous un autre Guillaume Lemoine. Bonjour Guillaume. Vous êtes référent biodiversité et ingénierie écologique EPF Hauts-de-France, EPF pour établissement public foncier, dans ce qui s'appelait autrefois le Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à vous. Voilà, on démarre tout de suite, chers amis. On va commencer avec vous, Jeanne, puisque vous, alors Jeanne m'a dit en préambule avant l'émission, je peux tenir 2 heures sur le sujet tout seul. Elle aura peut-être pas 2 heures toute seule, mais c'est intéressant de vous écouter justement sur pour poser les thèmes du sujet. Effectivement, cette biodiversité, comment elle est appréhendée voilà, par exemple, quand on est chargé de mission écologie urbaine à la ville de Nanterre.
Alors, il faut savoir que la biodiversité à la ville de Nanterre, la ville de Nanterre, c'est un territoire qui se transforme énormément, qui se construit énormément, mais en même temps, les politiques ont à cœur de préserver la biodiversité et la nature en ville. Donc, mon poste, justement, cherche à faire le lien entre ces deux thématiques. Donc déjà, c'est chercher à connaître la biodiversité au sein du territoire. Donc la connaître, c'est déjà l'observer, regarder les dynamiques, donc faire des inventaires faune-flore, et regarder les dynamiques, donc observer la trame verte et bleue du territoire, donc tout ce qui est réservoir de biodiversité, les corridors qui lient ces réservoirs. Ensuite, ces inventaires qui sont faits par plusieurs acteurs du territoire, que ça soit par la ville ou d'autres propriétaires, notamment les deux plus grands parcs du territoire appartiennent au département des Hauts-de-Seine. On a énormément d'études d'impact qui sont faites sur le territoire parce qu'on a la création de ZAC et de nouveaux projets d'aménagement.
Et alors donc, attention, je vous ai dit, on traduit les acronymes. Donc
zone d'aménagement concerté.
D'accord. Une petite question. Alors Nanterre, pour ceux qui suivent, c'est dans l'ouest de Paris, c'est bien ça. On a pas mal d'entreprises qui sont mises aussi dans ce territoire. Cette mission écologie urbaine, elle est récente ou c'est assez ancien?
Cette thématique est apparue dans les années 90. Donc la ville est assez pionnière sur ces thématiques. Elle a notamment créé son plan climat air énergie en 2007, avant que ça soit inscrit légalement. Donc la ville a toujours à cœur de réfléchir sur cette thématique.
D'accord. Du coup, quelle politique est mise en place justement pour voilà, accueillir ou faire prospérer cette biodiversité dans la ville?
Alors, les politiques actuellement, sur la mandature actuelle, au niveau des engagements pris par le maire et par les élus, il y a une grosse thématique sur l'arbre actuellement. Essayer de préserver les arbres et d'en planter énormément. Donc c'est en lien avec la biodiversité, mais d'autres aussi thématiques comme les îlots de fraîcheur, le confort des espaces. Et après, ces politiques sont déclinées et on a notamment au niveau de nos règlements, par exemple le PLU, où aussi on a des demandes fortes Sur les projets d'aménagement. Donc, un exemple, le PLU nous demande de ce que les nouvelles constructions aient 90% de leur toiture soit végétalisées, soit qui accueillent des énergies renouvelables, soit qui accueillent les usagers du site. Donc, on voit au niveau des nouveaux projets
L'implantation. C'est obligatoire ces chiffres aujourd'hui ?
Oui. Ça fait partie de la réglementation dans
d'accord.
le PLU.
C'est inscrit dans ce plan local d'urbanisme donc. Hein.
Oui, toujours les acronymes. Et une autre réglementation, c'est que on demande un certain pourcentage d'espace libre et de pleine terre.
D'accord.
Parce que on a donc la pleine terre chez nous, c'est des sols qui sont qui n'ont pas de construction en dessous et qui sont vivants.
Très bien, on continue dans un instant avec vous, Jeanne. Je voulais faire intervenir également Guillaume Lemoine avec l'EPF, donc dans Pas-de-Calais, établissement public foncier. Rappelez-nous, Guillaume, quel est le rôle d'un EPF ?
Bah d'abord, c'est l'EPF Hauts-de-France.
Hauts-de-France,
c'est vrai. Sur le territoire de la Somme. Donc voilà, donc on a eu une extension de notre domaine de compétences et d'intervention. EPF, établissement public foncier, c'est un établissement public de l'État qui intervient à la demande des collectivités, donc collectivités, les communes, les intercommunalités, pour aller chercher du foncier dégradé, c'est-à-dire des usines ou des quartiers en déshérence. Voilà, donc l'usine a été abandonnée, il y a des bouleaux qui poussent dessus, il y a des puits de léa, et d'aller le déconstruire, traiter les sources de pollution concentrées, et restituer au territoire ou à ses aménageurs, c'est-à-dire les SEM, les bailleurs sociaux, les gens qui vont créer des béguinages, tous les acteurs de la reconstruction de la ville, rendre un terrain disponible sans aucune infrastructure dessus ou dans les premiers mètres du sol ou dans le premier mètre du sol. Et donc, ce qui est important, c'est que on est un outil du ZAN, du fameux ZAN zéro artificialisation nette. Chaque fois qu'on va chercher dans l'enveloppe urbaine, dans la ville, un foncier pour le remettre à disposition, on évite la consommation d'un territoire de la même surface en périurbain.
D'accord. Donc vous agissez comme un recycleur foncier en quelque sorte ?
On est un recycleur foncier, c'est peut-être le premier terme que j'aurais dû utiliser. Et donc, on évite la consommation des ENAF. Donc, je sais que vous aimez les acronymes, espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, chaque fois qu'on prend une usine de quelques hectares en ville, en déshérence, et qu'on la remet sur le marché,
d'accord.
C'est ça de moins consommé, ça de moins de périurbanisation.
Très bien, voilà pour un petit tour de table. On continue, Pierre Darmé.
Ouais, ça m'inspirait un bon mot, Fabrice. ZAN et plus, pour promouvoir la sobriété foncière. ZAN et plus ça, voilà.
Ouais.
Si on fixe le cadre du ZAN dans le PLU, sa concrétisation dans le PLU, on avance. Et puis si on urbanise des ENAF, on est dans le pâté. Oui. Le pâté ZENAF.
Bravo.
Bien.
Voilà. Bravo.
C'est les grosses têtes de Bâti Radio. Ça va être une nouvelle émission. Alors, soyons sérieux. Pardonnez-moi pour ce trait d'humour douteux, Fabrice.
Non, mais vous coachez les candidats de ce soir ou?
Pas tout à fait. Voilà.
Mais un bel avenir pour les grosses têtes.
Oui, c'est une référence.
Alors, Pierre Darmé, vous êtes là pour nous parler du CIBI et du BIG. Alors là aussi, on a pas mal d'acronymes. Le CIBI, c'est quoi? Conseil international biodiversité et immobilier. De votre présence, que fait le CIBI?
Alors, le CIBI, c'est une association qui regroupe les acteurs qui sont plus en aval que les collectivités et les établissements publics fonciers, pour ne pas dire les EPF. Ce sont les acteurs de la construction, les acteurs de l'immobilier, donc investisseurs, foncières, promoteurs, grands utilisateurs. Ça, c'est des mots qu'on connaît bien sur les antennes cousines de Radio Immo, notamment. Les architectes. Les paysagistes concepteurs, qui sont les architectes paysagistes. En France, c'est consacré par la loi biodiversité, nature et reconquête des paysages de 2016, le titre de paysagiste concepteur. Un nouveau métier que le CIBI, j'en reparlerai, a contribué à faire émerger, qui est celui d'écologue urbain. C'est un écologue dont le champ d'application sont les zones urbanisées. Et puis, les jardiniers. Les entrepreneurs du paysage, les entreprises et start-up d'agriculture urbaine, etc. Et les entreprises de services à l'environnement et à la ville, c'est-à-dire toute cette chaîne de valeur, toute cette nouvelle filière qui va de l'amont à l'aval pour travailler à mieux intégrer le vivant dans la ville avec une première échelle de prédilection qui est celle de l'îlot bâti. L'île au bâti, c'est donc le bâtiment et son proche environnement, qui lui-même est constitutif des quartiers, et les quartiers sont reliés entre eux par des infrastructures. Donc on touche là à une notion d'échelle. Et l'association CIBI est beaucoup plus connue pour une marque qu'elle a créée, qui est la marque Biodiversity, avec un C comme la ville, donc c'est aussi à l'anglo-saxonne.
City. Okay.
City, voilà. Qui est un référentiel de plus de 200 critères, qui permet à, aux parties prenantes d'un projet immobilier de vérifier sa compatibilité avec différents volets de biodiversité urbaine. Je pense qu'on reviendra sur la définition si on le peut. Et qui donne lieu à l'obtention d'un label qui permet d'impliquer tout le monde dans une démarche vertueuse et puis aussi de la valoriser notamment auprès des usagers. Parce que lorsque l'on parle de biodiversité urbaine, que l'on soit maire, que l'on soit directeur d'un EPF ou que l'on soit promoteur, ce que l'on vise, c'est aussi à toucher. Vous parliez tout à l'heure de connaître la biodiversité. Pour connaître, il faut aussi aimer. Et pour entrer en interaction, il faut avoir un rapport sensible au vivant, et c'est bien le but de toucher les usagers. Donc le label décline un certain nombre d'actions pédagogiques qui permettent aux citoyennes et aux citoyens, que ce soit les salariés d'une entreprise si c'est un bâtiment de bureau, les consommateurs d'un espace commercial si on est dans un centre co, etc., de comprendre et de connaître la biodiversité qui les entoure.
Et de se réconcilier peut-être un peu avec le vivant, ou de connaître un petit peu mieux, même si on est à l'intérieur de bâtiments ou dans quelque chose de très minéral. Je voulais avoir votre point de vue, Guillaume Loiseau. Je trouve ça très intéressant, ce sujet qui est un petit peu en décalage par rapport. Bon, on parle de plus en plus des matériaux biosourcés, géosourcés, on en a déjà parlé sur cette antenne. Là, c'est carrément la biodiversité. En préparant le sujet, je me disais, c'est pratiquement presque antinomique avec des gens qui bâtissent finalement, qui sont des couleurs de ciment pour reprendre ceux qui les brocardent.
Ça peut apparaître en décalage parce qu'on a beaucoup dévié, en fait. Mais en réalité, on a l'impression que ça redevient au centre. Tout est une question de point de vue et ça l'était au départ, finalement. Alors, pour nos auditeurs, effectivement, il y a beaucoup d'acronymes, de langage un peu expert. Finalement, toute cette tendance, que ça soit localement, dans le cadre d'associations plus larges, voire même de référentiels européens, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, en fait, que l'ensemble des citoyens, quel que soit leur rôle public et privé ou leur niveau d'engagement dans la collectivité ou ce qui structure la nation, sont en train de se réapproprier cette notion de milieu. Et la prise de conscience générale qui est très forte depuis deux ans et qui, je pense, va aller encore plus vite dans les mois qui viennent parce qu'on n'a plus beaucoup le choix et le contexte ne fait que confirmer ce qu'on pense. Contexte politique, c'est que on doit se réapproprier en fait l'ensemble de ce qui constitue notre milieu, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre, de respirer et par voie de conséquence d'être joyeux et d'avoir un peu moins de fractures sociales. Et on peut plus émettre ou prendre sur le milieu qui nous a été donné, dont on a tous hérité, sans se poser de questions. Donc qu'il s'agisse de préempter un territoire, donc là on parle de la ZAN et on n'a pas fini d'en parler, qu'il s'agisse d'émettre beaucoup parce qu'on est sur des process industriels de matériaux qui sont fortement émissifs, vous voyez ce à quoi je fais référence, qu'il s'agisse en fait de remettre du végétal pour avoir de la biodiversité animale, et du végétal, ça permet de quoi? Ça permet effectivement d'avoir des environnements plus agréables pour les habitants, mais surtout une ville un peu plus agréable à vivre pour compenser les 4 degrés qu'on va prendre dans les 30 prochaines années, vraisemblablement. Et donc de réduire cette problématique d'îlot de chaleur. Et puis le végétal sous toutes les formes. Alors un chêne n'a pas la même capacité de puits de carbone qu'une plante, bien sûr. Mais à chaque fois qu'on remet du végétal, c'est-à-dire des organismes qui fonctionnent avec quelque chose d'élémentaire dont on a tous entendu parler à l'école, qui s'appelle la photosynthèse, ça réduit tout ce qu'on émet en termes de carbone en stockant le carbone, en tout cas pour de nombreuses années. Voilà. Donc tout ça, en fait, relève d'une prise de conscience générale. C'est pour ça que ça revient au centre. Mais en l'occurrence, c'est ce qui a constitué tous nos modes d'habitation, la cité, etc., depuis de nombreuses années. Et ça devient prioritaire parce qu'on est sur des tendances qui sont assez critiques, en fait, sur ces sujets.
Alors, en effet, 1 million d'espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Le chiffre paraît énorme et en même temps, on sait qu'on vit déjà à 55% dans les villes, hein, les humains, et ça serait jusqu'à 70%. Donc on a l'impression qu'il est urgent, effectivement, de réintroduire peut-être du vivant, de la biodiversité dans la ville. Jeanne, comment on fait pratiquement, comment ça se passe, comment on met ça en musique quelque part?
Alors ça va dépendre de si on est sur un projet qui, enfin, de l'existant ou si on est sur un projet d'aménagement, on va créer. Sur de l'existant, on va chercher à d'abord préserver, voire améliorer. Ça va passer par de la désimperméabilisation de l'espace public, mais aussi une thématique très importante, c'est la sensibilisation. Parce qu'une ville, on a énormément de propriétaires différents, que ça soit des entreprises...
Et d'intérêts différents.
C'est ça, d'intérêts différents. Donc c'est essayer de fédérer tous les acteurs du territoire autour de la préservation de la biodiversité. Mmh. Il y en a, ils le font très bien. D'autres, certains, il faut les accompagner.
Mais à une époque où, comme disait Guillaume, on a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience généralisée, on a l'impression qu'on n'a quand même pas tellement le choix, qu'on fait les derniers rapports du GIEC assez alarmants, voire alarmistes. Hein. À chaque fois qu'il parle, on perd une décennie, voire plus. On avait un horizon 2100, 2050, maintenant c'est 2030 ou 2025. On a l'impression quand même que les intérêts convergent. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des différents acteurs, même si on n'a pas les mêmes...
Sur les projets qui sont en création, donc on travaille avec les aménageurs et les promoteurs, on voit que rien qu'en quelques années, y a vraiment une prise de conscience. Au début, quand on nous présentait certains projets, on devait demander à ce qu'ils soient énormément retravaillés sur l'accueil de la biodiversité. Par exemple, la palette végétale qui est beaucoup trop horticole, pas du tout adaptée aux espèces locales. Donc, et maintenant, on voit les architectes, les promoteurs qui arrivent avec des projets qui ont déjà pris en considération ces thématiques. Ouais. Et même, pendant le concours d'architecte, on va valoriser ces projets, on va essayer de sélectionner ce genre de projet. Et même donc les aménageurs aussi, quand ils rédigent la fiche de l'eau d'un projet d'aménagement pour ensuite sélectionner le projet, il y a des exigences assez fortes. Notamment, nous, on a un nouveau quartier qui se crée, le 11e quartier de Nanterre, qui s'appelle le quartier des Groux. On voit beaucoup de projets qui, notamment, demandent le label Biodiversity.
D'accord. Label qui est donné, qui est...
comme une certification, vous avez un assesseur, donc un écologue urbain qui a souscrit, satisfait toutes les étapes d'une formation, donc il a une formation initiale, soit il est écologue diplômé d'un diplôme d'université, soit il est ingénieur agronome avec de fait des notions assez fortes en écologie, avec un exercice, une pratique de la ville, et puis il suit une formation et il passe un examen. On peut être recalé, il y a des profils très intéressants qui n'ont pas assez de connaissances, on va dire, et de vue d'ensemble de ces deux sujets, de la biodiversité d'une part et de l'urbain d'autre part, qui va accompagner le maître d'ouvrage, qui va être en fait un aiguillon, positif comme négatif parfois, sur quatre grands axes. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a deux axes avec tous les critères qui sont liés, qui vont avoir trait au maître d'ouvrage et à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, est-ce que la commande du maître d'ouvrage est suffisamment ambitieuse? Et si tel n'est pas le cas, de l'aider à demander quelque chose de plus fort, à challenger le brief, comme on dit. L'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, vous en parliez, madame, et le paysagiste concepteur et toute cette équipe, comment est-ce qu'elle va traduire ça en poussant le curseur un peu plus loin? Donc ça, c'est sur le projet. Et puis, il y a deux axes qui sont liés au résultat, pour ne pas dire à la performance. D'une part, le potentiel écologique. Est-ce que le projet que l'on a imaginé dégrade ou améliore l'accueil de la faune et de la flore sur le site? Est-ce qu'on détruit des milieux? Est-ce qu'on en crée de nouveaux? Ce qui peut faire valoir, vouloir dire à certains, on crée de la biodiversité positive. Moi, je suis toujours très prudent avec les mots, les néologismes, attention. Mais on peut, lorsque l'on est dans une zone très bâtie, très dense, apporter un supplément par rapport à ce qu'il y a pu avoir pendant des décennies. Donc ça, c'est la valeur, on va dire, écologique pure. Et puis, enfin, une valeur extrêmement importante, c'est celle des usages. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la possibilité pour les citoyens de voir si j'ai un toit qui va accueillir des installations photovoltaïques, mais que je suis dans un site en bordure d'un écosystème un peu préservé, et que ce site est un lieu de repos intermédiaire qui concourt à la création d'une trame, ce qu'on appelle les pas japonais. Les écologues parlent de pas japonais, c'est-à-dire d'espaces qui ne sont pas dans une continuité, mais suffisamment proches pour que les espèces puissent se déplacer. Eh bien, peut-être qu'il faudra éviter que les espèces qui vont venir spontanément soient gênées par la présence humaine. Ce qui ne nous empêche pas de mettre une caméra ou d'expliquer ce qu'il se passe sur le toit pour que les citoyennes et les citoyens qui fréquentent ce lieu public, cette entreprise, cet îlot de logement, aient connaissance de ce qui s'y passe. Et puis sur le plancher des vaches au sol, d'avoir des arbres et de leur expliquer que voilà, c'est une espèce qui est horticole, qui a été cultivée par la main de l'homme, sélectionnée à des fins de rafraîchissement, comme le disait Guillaume tout à l'heure, ou que c'est une espèce purement locale qui, elle, a vocation plutôt à accueillir tel ou tel être vivant. Donc c'est tout ce faisceau-là. Et si vous me le permettez, je pense qu'il y a un point important, vous touchiez du doigt le sens. Biodiversité, climat, même combat. Un promoteur immobilier a repris ce claim à son compte. L'érosion de la biodiversité, c'est un effondrement. Vous parliez d'un million d'espèces, c'est aussi une diminution extrêmement forte des effectifs. Donc c'est extrêmement grave, docteur, au même titre qu'on a un réchauffement climatique. En fait, tout ça, c'est le dérèglement du système Terre. Donc on ne peut pas isoler les deux sujets. On le voit à l'échelle macro comme à l'échelle locale sur le sujet des îlots de chaleur. Ça peut se traiter de concert. Et ensuite, c'est...
On peut faire machine arrière ? On pourrait réintroduire justement ces espèces
perdues ? Ce qui est intéressant,
perdues,
c'est que, à la fois, ce qui est perdu est perdu. En revanche, on sait que si on n'intervient plus sur un milieu et qu'on fait de la restauration écologique, on a un retour des espèces, non pas la disparition d'une espèce donnée, par exemple l'ours blanc, on ne pourra pas le recréer. Ça, c'est perdu pour perdu. Mais si un lieu est dépourvu de biodiversité, des êtres vivants peuvent se le réapproprier de manière assez rapide. Beaucoup plus rapidement que des effets de réversibilité sur le réchauffement climatique, parce qu'il y a moins d'inertie. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit l'effet de ces décisions de notre vivant au bout de quelques années. Donc il est extrêmement important, quand on parle de biodiversité urbaine, et j'en termine là-dessus, d'avoir en tête les grands enjeux. Il y a un enjeu écologique, on peut être altruiste, nous faisons partie du vivant, il faut donc le respecter, sans rien attendre en retour. C'est important, c'est le pilier écologique. Un deuxième sujet, c'est celui des services. Nous mangeons, nous respirons, nous rafraîchissons grâce au vivant. Et en ville, certains parlent de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire d'exploiter ce qu'on appelle les services écosystémiques rendus par les écosystèmes. Certains parlent même d'infrastructures vertes. On peut le décliner à toutes les échelles qu'on a citées tout à l'heure. Et enfin, last but not least, plus on vit connecté à la nature, plus on la protège. C'est vrai. Depuis que nous n'avons plus besoin de cultiver pour nous nourrir, nous ne sommes pas en interaction quotidienne avec le vivant. On n'a plus besoin d'avoir notre potager. On a cette aspiration-là, vous parliez du confinement et depuis 2 ans, mais on n'en a plus besoin. Et donc, quand on est en ville, un des enjeux, c'est pas de sauver la nature si on met, je suis désolé d'être un peu direct, si on met quelques fleurs et même des espèces les plus locales possibles en respectant toutes les normes ou tous les cahiers des charges sur le toit. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est en ayant une vision plus globale. Mais on ne peut pas s'exonérer de la présence de vivants au cœur de la ville parce que c'est là que nous, citoyens, sommes en interaction avec lui.
Merci Pierre. Il faut que je respecte les temps de parole, hein. Attention, parce que là, Pierre a pris de l'avance. On donne la parole à Guillaume Lemoine. Justement, on parlait de cette gestion de la biodiversité. Elle est essentielle, notamment pour vous, avant projet. Expliquez-nous, Guillaume Lemoine, quand vous démarrez justement ces opérations dont vous nous parliez tout à l'heure de recycleurs fonciers.
Bah, donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que les EPF font une espèce de feuille de route tous les 5 ans, qu'on appelle un programme pluriannuel d'intervention. Et donc, dans l'écriture de notre dernier programme, nous avons martelé que la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la clé d'entrée de l'intervention de l'EPF. Voilà, c'est le préambule de l'intervention. Donc, tout ce qu'on va demander à l'EPF pour faire du recyclage foncier va être analysé sur notre impact sur la biodiversité et notre impact sur le climat. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Eh ben, madame de Nanterre, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi.
Jeanne Godin, a dit, bah oui, à nos côtés.
C'est de travailler sur les inventaires. Se poser la question en disant, qu'est-ce qu'il y a sur le site. Qu'est-ce qui est existant? Et c'est d'appliquer ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, on est d'abord dans l'évitement, réduire, compenser. Donc on va imaginer que là où il y a des lézards, là où il y a des orchidées, parce qu'une friche, quand il y a les dynamiques spontanées s'installent sur ces espaces urbains délaissés, eh ben on peut avoir des lézards, on peut avoir des amphibiens, on peut avoir des hirondelles qui s'installent, on peut avoir des rapaces qui nichent sur les bâtiments. Comment on peut déconstruire un bâtiment sans impact, sans apporter une perte de biodiversité? Et si jamais on détruit marginalement quelque chose, il faudra le compenser. On peut détruire des bâtiments sur lesquels il y a des nids d'hirondelles, malheureusement, des usines en ruine. Voilà, et ben, il faudra trouver, relocaliser et s'assurer qu'il n'y ait pas de perte nette. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et c'est assez important, c'est de préserver tous les sols. On avait oublié la notion des sols, la notion des zones de pleine terre. Et donc là, les premiers chantiers de PF, historiquement, ça fait plus de 30 ans qu'on intervient, et bon, on laissait des vastes plateaux urbains avec des espaces, des matériaux de déconstruction pour que les promoteurs puissent se réinstaller, faire revenir de la terre, refaire de ex nihilo des espaces verts, des espaces naturels. Maintenant, tous les espaces de pleine terre sont préservés avec de la rubalise, avec des clôtures érasses. Des plans de circulation sont faits, c'est-à-dire les caterpillars, les engins de chantier ne vont pas rouler, ne vont pas impacter la terre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le promoteur immobilier qui arrive après nous, s'il veut faire un jardin potager, s'il veut faire un espace vert, s'il veut faire un espace naturel, s'il veut faire une zone d'infiltration, c'est pas un bout de terre que j'ai compacté, que j'ai remblayé, que je reviens et tout ça, que je fais venir à l'extérieur. J'essaie de garder. Donc, on parlait là de services écosystémiques. Moi, je vais parler de fonctions écologiques. Je veux garder les fonctions écologiques du sol en place. La même chose, toutes les végétations présentes sur le site sont maintenues. Et donc, voilà. Et donc, on va baliser les arbres, on va baliser les végétations et on va s'assurer pour déconstruire les usines, un peu comme on va extraire une dent carriée sans abîmer tout ce qui est autour. Voilà. Voilà. Et donc, de manière à ce que le promoteur suivant, il a déjà des arbres sur son site. Vous imaginez la révolution. Avant, on rendait un plateau urbain nu pour que le promoteur, il ait les coudées franches. Maintenant, on l'ennuie aux entours, voilà, parce qu'on va lui laisser des arbres, on va lui laisser un site piqueté d'espace. Et s'il veut retirer les arbres, il les retire. Mais s'il est intelligent, ou si jamais il a moins de contraintes par rapport au plan masse et tout ça, il aura déjà un paysage, et les appartements qu'il va vendre, il aura déjà le parc urbain créé avant même que les immeubles soient faits. Et c'est une, je pense, une révolution dans la manière de faire, le maintien des arbres, le maintien de tout ça. Et j'en termine par rapport à un discours que j'espère être bref, c'est-à-dire que les arbres qu'on a laissés, s'ils gênent, ils pourront partir. C'est le projet de la ville. C'est le projet de l'aménageur qui n'est pas le projet de l'EPF. Nous, on libère le terrain pour qu'il puisse être fait. Eh ben, au moins ces arbres, entre le temps de la déconstruction et le temps de la reconstruction, ils auront assuré des fonctions écologiques. Ils auront évapotranspiré. Ils auront stocké du carbone. Ils auront accueilli des oiseaux nicheurs. Ils auront accueilli des chauves-souris dans les infractuosités. Ils auront permis à des pollinisateurs sauvages de venir butiner sur des fleurs de tilleul et autres. Et ils auront, ce sera, entre guillemets, la contribution colibri de l'EPF sur le temps de portage.
Eh oui, mais multiplié effectivement par peut-être des dizaines à travers le pays, ça peut valoir le coup, en tout cas c'est sûr. Je reviens sur la notion RC, la compensation, c'est-à-dire si le promoteur décide quand même de couper l'arbre qui gêne parce que ça ne s'insère pas dans son plan, il va devoir le remplacer, il va devoir le replanter ailleurs?
Non, l'arbre il n'a pas de statut de protection réglementaire. Par contre, le promoteur, s'il détruit des espèces protégées, il sera responsable de ses propres impacts. C'est-à-dire que l'EPF, quand il fait son chantier, il s'assure pour éviter, entre guillemets, la destruction des éléments de patrimoine remarquables ou protégés. Le promoteur, la question se posera exactement de la même manière quand il prendra possession du terrain.
Guillaume Loiseau, on voit que du coup, on est en train de s'imposer des normes pour, de plus en plus, on l'a vu, préserver, protéger ce vivant et cette biodiversité.
Oui, moi, ce que je dirais en complément de ce que vous avez dit tous les trois, la meilleure nouvelle, en fait, c'est que l'économique va s'emparer du sujet. Et Pierre citait un certain nombre d'enjeux, trois, j'aurais rajouté celui-là en quatrième. C'est une bonne nouvelle, en fait, parce que on disait, il y a le GIEC, ça fait longtemps qu'on le sait, à chaque fois qu'on en parle, on nous alarme, on nous fait peur, mais finalement, pas grand-chose ne change, parce que chaque fois qu'on communique, on nous dit que c'est pire que la communication d'avant, donc ça veut dire que ça s'est pas amélioré entre deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, il y a des complexités, des enjeux économiques pour toutes les natures d'acteurs qui sont colossaux. Et quand on parle des sujets du climat et de l'environnement, on a une émission d'ailleurs sur la rénovation urbaine ou pas. Là, on est sur la biodiversité. Il y a plein d'autres sujets. Et à chaque fois qu'on prend la parole sur un sujet, aujourd'hui, on focus sur ce thème de la biodiversité. Peut-être à tort dans notre façon de parler à tous, mais on donne le sentiment que c'est la solution. En réalité, scientifiquement, cette solution n'est pas à l'échelle du problème à elle seule. En revanche, la réduction de nos émissions de carbone à 2030 ou 2050, parlons que de 2030 parce que ça paraît plus concret et réaliste et
atteignable.
Et avec des échelles qu'on maîtrise un peu plus. De toute façon, cette trajectoire-là ne sera jamais atteinte si on prend le problème global par un seul sujet. Donc il va falloir rénover la France, il va falloir remettre de la biodiversité, en tout cas agir fortement sur ce sujet, il va falloir décarboner les process industriels, et ainsi de suite. Je vais pas ouvrir tous les autres sujets qui sont nombreux, et donc on n'a pas le choix en fait, et c'est même pas une question de volonté, de politique, de stratégie, qu'on soit acteur public ou privé, c'est que scientifiquement en fait le compte n'y est pas. Si on rénove tous les logements en français, il faut le faire. La rénovation totale en 10 ans de tous ces logements ne permet pas de réduire les émissions de carbone à la hauteur auxquelles on prétend les réduire. Donc il faut faire ça et tout le reste. Et donc la bonne nouvelle, pourquoi je disais qu'il y a l'économie qui s'en empare, c'est qu'en fait, vous citiez tout à l'heure les promoteurs, là on parle de terrain, de logique d'aménagement, etc. C'est que la nouvelle valeur en fait va être d'avoir ces usages comme on donnait il y a 20 ans des nouveaux usages de... d'accès à certains services, d'accès à certains niveaux de confort et de qualité de vie des bâtiments eux-mêmes, dans ce qu'ils donnaient aux citoyens, bah là, en fait, on va retrouver la nécessité, donc l'exigence de ceux qui achètent, ceux qui payent et qui s'endettent pour avoir ces logements, d'accès à ces usages de naturalité dans leur quartier, finalement. Et les bâtiments ou les quartiers qui seront en retard par rapport à ces nouveaux standards se vendront plus.
Se vendront moins. Parce qu'il y a quand même une pression, on le sait, hein. Mais effectivement,
ça pourrait aller plus vite qu'on ne le pense. Regardez ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres secteurs. L'électrification de la mobilité, ça fait 30 ans que les solutions existent. Ça fait pendant 25 ans, l'ensemble des acteurs, pour des raisons économiques qui sont tout à fait respectables, ont résisté parce qu'il fallait complètement renverser la table et shifter le système. Et là, en 2 ans, bizarrement, tout le monde a basculé.
Ouais. On s'espère la même chose, effectivement. Mais c'est vrai, sur le bâtiment, les gens étaient tellement confinés que maintenant, il n'y a plus de logements qui se créent sans extérieur, ou en tout cas, ça se vend beaucoup moins, on le voit. Demain, il faudra peut-être aussi son carré de jardin, son petit potager en bas de l'immeuble. Vous voulez intervenir, Pierre, justement, sur ce que...
Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit les deux Guillaume. La première des choses, c'est de faire avec ce qui est déjà là. Et c'est valable à toutes les échelles, sur le foncier, parce qu'on doit atteindre cette sobriété foncière qui est peut-être plus facile à comprendre que le ZAN. On doit être plus économe de foncier, mais c'est aussi valable sur les matériaux. Là, on voit des opérations sortir, notamment, je salue le booster du réemploi qui a boosté vraiment le sujet depuis un an et demi, une opération notamment où la réalité de difficulté de fourniture des matériaux, l'envolée des prix, et la nécessité de compresser un peu les délais fait que la solution de faire appel au réemploi est une solution de bon sens.
Elle devient compétitive.
Et elle devient compétitive. Elle ne l'est pas encore, mais elle devient aussi pour des éléments minéraux qui participent des sols dont parlait Guillaume Lemoine tout à l'heure. Il y a même des entreprises qui ont développé un savoir-faire sur le sujet. Je pense à Sol Paysage, qui cartographie d'abord les sols avant un projet. Donc cette économie de ressources et l'économie circulaire appliquée aussi aux végétaux, aux sols, etc., elle arrive. Et puis le deuxième sujet sur l'économique, vous parliez, vous avez cité l'acronyme BIG, donc je vais l'expliciter, oui. Biodiversity Impulsion Group. C'est une initiative française qui a été imaginée par Sabine Desnaux, donc directrice innovation et RSE de Gecina, portée par l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Je salue Loïs Moulas, son directeur, et Sabine en est la présidente. Et il y a une vingtaine d'entreprises qui ont dit, toutes les démarches d'excellence comme Biodiversity dont on parlait tout à l'heure, c'est très bien, on a besoin de massifier. Et on a besoin notamment d'anticiper la taxonomie verte, la fameuse européenne, pour pouvoir définir des indicateurs robustes qui nous permettront demain de justifier auprès des investisseurs ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Que l'on soit en amont pour de la création ou de la rénovation, ou que l'on soit en property management, en exploitation. Donc là, on voit bien que le sujet de la mesure de l'impact écologique, de la mesure des aménités que peut procurer un espace et sa monétarisation en termes de capacité d'investissement à engager la rénovation énergétique, bas carbone, biodiversité, sont extrêmement corrélés. C'est une des ambitions de Big qui vise aussi à cartographier les projets et puis à former massivement les équipes pour qu'il n'y ait plus un seul projet, qu'il soit labellisé ou non, qui passe à côté de cette dimension. Et Guillaume Loiseau a raison d'insister là-dessus, ça n'est pas un sujet en silo différent des autres qui serait une panacée, c'est l'ensemble des sujets.
Ouais, c'est tout faire en même temps.
Exactement.
Jeanne Godin, justement, je voudrais concrètement vous nous disiez, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe là chez vous à Nanterre, sur quel projet vous travaillez en ce moment pour réintroduire ou diversifier cette biodiversité?
Pour rentrer en résonance avec tout ce qui a été dit, notamment, il y a une thématique qui est ressortie, c'est celui du sol, la réutilisation du sol présent. En fait, dans le nouveau quartier qui se crée, le quartier des Groux, donc il y a eu une analyse de ces sols. On a remarqué que ces sols étaient pauvres, étaient calcaires, mais ce quartier qui est très très grand, on peut pas se permettre de retirer ces sols pour en remettre des sols fertiles. Ce serait une aberration écologique. Donc là, l'objectif, c'est de rentrer dans une démarche de sobriété et de réemploi. C'est de réutiliser les terres qui sont en place et les renaturer, les réactiver. Parce que on se rend pas compte, mais déjà, la biodiversité dans les sols, ça représente une énorme partie de la biodiversité sur la terre. Et ensuite, au niveau des fonctions écologiques du sol, elle contribue énormément, que ça soit dans le cycle du carbone, de l'eau, de l'azote. Donc on a besoin de sols vivants. Et donc ces sols qui sont pauvres, on va venir les réactiver avec de la matière organique présente sur le territoire de Nanterre.
Alors avec quoi ?
Donc ça va être tout ce qui est tonte, feuilles, branchages que notre service Espace Vert va fournir pour réactiver ces sols. Et ensuite on a aussi un côté innovation. Donc là, on a de plus en plus les promoteurs qui essayent d'avoir des démarches innovantes au niveau de l'accueil de la biodiversité. Donc il y a tout aussi une démarche d'inoculation de micro-organismes qui vont venir accélérer ces processus d'accueil de la biodiversité. Et ensuite, selon l'usage du sol, les horizons du sol vont être adaptés. Ça va pas être la même chose si on implante des noues, si on a des fosses d'arbres en isolé entre des places de parking ou un grand espace vert. Notamment, il développe aussi une réflexion sur des zones des petites poches de biodiversité, des réservoirs de biodiversité qui seront intactes à l'homme et qui se développeront seuls où on viendra très peu gérer ces espaces.
D'accord. Guillaume Lemoine, pour vous, pareil, je voulais avoir quelques exemples aussi concrets, peut-être d'une réalisation en cours, ou ce sur quoi vous planchez actuellement.
Alors, sur quoi on pense Alors, je vais d'abord vous dire ce qu'on fait, donc ce qu'on a industrialisé et sur quoi on part. Oui. Alors, ce qu'on a industrialisé, c'est que, je vous racontais, on déconstruisait, on laissait des anthroposols, donc des sols bouleversés suite à l'intervention de PF avec des déchets de démolition, des caves remblayées et autres. Et donc, ce qu'on a fait, sur lequel on est assez fiers, c'est qu'on a systématisé l'installation de prairies fleuries sur ces espaces. Donc, on parlait de nature en ville et en pas japonais. Vous imaginez que le PF Hauts-de-France est propriétaire de 800 hectares de foncier recyclé dans l'enveloppe urbaine. Donc, 800 hectares de puits de carbone, de lutte d'espace contre les îlots de chaleur urbain, de prairies fleuries qui accueillent des papillons, des escargots, des abeilles sauvages et autres espèces. Donc, de la nature ordinaire. Quand on fait ces prairies fleuries, c'est pour éviter l'arrivée d'une espèce protégée. Je vous ai dit au début qu'on voulait préserver les espèces protégées présentes, mais notre boulot, c'est pas de rendre très complexe le boulot des promoteurs immobiliers derrière, parce que c'est pas leur peine qui leur tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire, quand il y a une usine, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, que le terrain reste avec de la biodiversité ordinaire, mais avec des faibles contraintes. Donc on a, taylorisé notre opération de prairies fleuries. On travaille sur des mélanges de graines, soit agricoles, type trèfle flottier pour nourrir des pollinisateurs sauvages, soit des prairies fleuries de haute qualité avec des semenciers particuliers, avec des labels végétaux locaux, végétaux régionaux. Ça, c'était notre première opération qui se fait quasiment sur tous nos sites. La petite innovation, c'est donc maintenant on commence à développer des usages transitoires, des occupations temporaires. Comment ces sols urbains en attente, déconstruits en attente d'un réusage, peuvent contribuer à autre chose que la biodiversité. Alors, je dirais déjà la biodiversité, c'est déjà pas mal. Déjà, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est déjà pas mal. Mais comment on fait plus? Et là, on a testé l'année dernière deux choses. On a fait une culture de céréales au milieu urbain pour voir si jamais des céréales mélangées avec des fabacées, donc des luzernes, des trèfles qui ramènent de l'azote, pouvaient produire de la biomasse pour alimenter un méthaniseur.
Ah oui.
Donc, pour pas être en concurrence avec les productions alimentaires, donc sur des espaces marginaux, dans le cadre d'un projet de recherche Interreg New Zealand, on développe des cultures de biomasse sur des pas de temps relativement courts, sur des entrepôts-sols urbains. Première innovation. Deuxième innovation, sur un autre site à Houpline. Là, le maire d'Houpline, en même temps vice-président à l'agriculture sur la métropole européenne de Lille, souhaitait en faire un espace de production agricole temporaire, avec toutes les difficultés de est-ce que le temps d'investissement par rapport à la logique de production. Donc, on a décidé de restaurer les sols en place avec des cultures de plantes ingénieures type facélie, engrais vert, avec des cultures de trèfle, de sainfoin, de luzerne. Voilà, parce que vous savez, bon, les fabacées oui. captent l'azote atmosphérique pour pouvoir enrichir les sols. Et sur une autre partie de la parcelle, on a fait une culture de chanvre. On s'est dit, on va limiter notre dépendance aux copeaux, je dirais, et aux mulch qu'on achète dans le commerce. Et donc, on a fait un carré de chanvre pour pouvoir alimenter en paillage les services espaces verts de la commune. Donc voilà, des circuits courts.
D'accord.
Et ce qui est dommage, c'est qu'on est à la radio et on n'a pas d'image, mais je vous montre des carrés. Nos cannes de chanvre, entre guillemets, font 4 mètres de haut sur un site urbain. Alors, je vous rassure, c'était du chanvre textile, c'était pas du chanvre riche en narcotiques divers et variés. Donc voilà les petites innovations, et on voudrait voir un petit peu si le temps de portage nous permet de faire des taillis à courte rotation. Donc tout ce qui peut contribuer au stockage du carbone et à l'amélioration du cadre de vie, au projet, au lien social, impliquer les gens, usage transitoire, potager, des machins comme ça, en gérant, avec la grosse difficulté, c'est de pas créer de la frustration quand le projet urbain arrive. Parce que si on fait des choses où il y a une trop grosse implication, eh ben les riverains qui se sont impliqués vont dire ben, peut-être que l'usage transitoire, c'est ce qu'on voulait au départ, ce qu'on voulait, on veut conserver, on veut pas forcément les immeubles. Mais on a besoin de logements, et donc le deal, c'est quand même transitoire, c'est pas définitif, et voilà.
Même question tout à l'heure que j'ai posée à Jeanne, est-ce que vous sentez que dans les équipes, voilà, ou vos interlocuteurs, on s'empare du sujet là aussi, c'est un petit peu plus important qu'avant, il y a peut-être un nouvel enthousiasme sur ces sujets récemment. Guillaume,
c'est bien moi, je pensais, même question.
Oui.
Ah oui, alors, oui, donc nous, effectivement, on a de plus en plus de demandes de la part des parties prenantes. On a des collectifs d'habitants qui nous sollicitent pour pouvoir utiliser ces sites. Les élus aussi nous sollicitent. Dans nos conventions, on commence à mettre la petite graine de l'usage temporaire et de la biodiversité pour que quand, en fin de process, une fois qu'on a déconstruit, qu'on arrive avec nos ensemencements et tout ça, que les élus nous disent pas « Ah ben, j'avais pas prévu tel machin, tel truc ». Et là, peut-être la plus grosse difficulté qu'on a, mais peut-être que ma réponse est un petit peu hors sujet, c'est à partir de quand on recrée des écosystèmes de grande valeur, et là, on aura probablement des difficultés et des scrupules à les bousculer pour les remettre sur le marché immobilier. Donc, il faut trouver le juste milieu entre faire des choses intéressantes, multifonctionnelles, en gérant et la frustration et en gérant le risque réglementaire à créer, entre guillemets, si je crée ou si le PF crée une mare, et s'il y a un triton crété qui arrive dans la mare, c'était pas ce que je voulais, même si jamais ça me plairait de pouvoir créer des mares, mais on n'en est pas encore à jouer avec la réglementation et avoir l'accord des DDT ou des DDTM et de l'ADREAL pour pouvoir faire de la biodiversité temporaire. Il y a plein de groupes de travail sur la biodiversité opportuniste, la biodiversité dynamique et tout ça. Mais on devrait pouvoir profiter des chantiers pour favoriser la biodiversité sur le pas de temps du chantier. Parce que ce qu'on a l'impression, c'est que la nature, c'est quelque chose de figé, avec des dynamiques relativement lentes et tout ça. Mais il y a beaucoup d'espèces qui sont des espèces pionnières, des espèces dynamiques, et qui peuvent profiter du chantier. Et voilà. Et donc, les chantiers, ça peut être aussi une marge de progrès dans le process du maintien de la biodiversité.
Pierre Darmier, vous voulez réagir? Alors,
simplement en écho à ces deux prises de parole sur ne pas faire d'anachronisme. Certains disent on va revégétaliser la ville. n'en jeter plus. On la végétalise. C'est-à-dire que par rapport à un état minéral, on apporte du plus. Évidemment, le marais avant était un marécage. C'est ensuite devenu un espace de maraîchage. Mais depuis qu'il est habité, c'est peut-être ça la bonne référence. Vous parliez du quartier des Grouges. J'ai travaillé. Nous avons une agence, les Jardins de Galie. Je l'ai dirigée pendant 5 ans. Rue de la Garenne. La rue de la Garenne à Nanterre, qui borde la Garenne-Colombe. C'est donc un milieu naturel, la Garenne. Il ne faut pas oublier que ça a aussi été, hélas, le bidonville de la folie, où il y a eu des drames humains très très forts dans les années 60. Puis ensuite, un espace extrêmement industrialisé, avec ensuite des immeubles de bureaux. Donc la ville est en dynamique, la biodiversité aussi. Donc il y a forcément des conflits d'usage lorsque, comme le disait Guillaume Lemoine, il y a de la biodiversité temporaire. La nature a horreur du vide et les espèces pionnières viennent. L'important dans les phases de concertation, c'est de se dire quelle est l'étape, quel est le moment que l'on utilise en référence. Parce que vivre dans la nostalgie d'une première nature complètement vierge, c'est assez dangereux parce qu'elle est un peu inatteignable. Et par ailleurs, ça permet de ne pas regarder des projets où là, on va avoir des atteintes à la biodiversité avec un grand B qui sont extrêmement fortes. Donc c'est un micro-sujet, mais c'est important de se fixer une période de référence. Et puis comme le font les urbanistes, les paysagistes, de regarder l'histoire du lieu pour définir quelle est la période raisonnablement à laquelle on veut faire référence pour construire quelque chose de nouveau.
Guillaume Lazo, justement sur ce... C'est pas évident, hein, je vous demande, parce qu'il nous reste très peu de temps, on arrive vers la fin de l'émission. En synthèse, on a dit beaucoup de choses. On comprend quand même qu'il y a une prise de conscience. Il y a de plus en plus des, on l'a compris, des choses qu'il fallait prendre en amont pour la maîtrise d'ouvrage, avec avoir cette dimension de temporalité aussi. On l'a vu, voilà, c'est pas la peine d'être sur des décennies. On peut faire quelque chose à une échelle, comme disait Guillaume Lemoine, assez courte. Même le temps qu'on peut sauver, entre guillemets, sur une friche ou sur du vivant. C'est vrai que la nature va reprendre ses droits. C'est assez enthousiasmant, je dirais, de savoir ça et de se dire que peut-être on va retrouver un petit peu plus de biodiversité les uns et les autres.
Oui, moi, ce que ça m'inspire, en fait, en vous écoutant, c'est que je trouve que ce sujet de la biodiversité, finalement, c'est pour moi une gamme de solutions retrouvées, j'allais dire nouvelles, en fait, retrouvées.
Retrouvées, oui.
C'est les nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux, ils se produisent localement. Ils font du bien. Du bien vivre ou du mieux vivre. Y a une richesse dans cette gamme de matériaux qui est de plusieurs centaines ou milliers, je ne suis pas agronome, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais en tout cas, une gamme de solutions qui est probablement extrêmement large. Et à l'intérieur de ces solutions, vous venez de le dire avec des exemples très précis, en fait, des notions de cycle, des caractéristiques, des dynamiques qui sont très intéressantes et qui peuvent s'adapter à toutes les formes de configuration d'un lieu, de volonté des citoyens ou des propriétaires du bâtiment, etc. Finalement, on va redécouvrir que ce nouveau matériau qu'on appelle biodiversité, qui se produit localement, qui est pas fabriqué à 300 km, qui n'est pas soumis à des spéculations diverses et variées, à un certain nombre d'autres choses... Dans cette gamme de solutions, il y a une richesse qui est bien plus importante que les matériaux industriels qui, eux, par nature, sont beaucoup plus homogènes, uniformes, avec des caractéristiques statiques et non pas forcément dynamiques, sur lesquelles on n'a pas toujours, aujourd'hui, les solutions en termes de circularité, c'est bien le sujet, etc. Alors que quand on produit de la biomasse et pour qu'on la réutilise pour faire du chauffage décarboné, ben là, on est dans une circularité qui est extraordinaire. Donc, Les gens comme moi, moins experts que vous, je pense qu'on va tous redécouvrir en fait ce champ et cette richesse qui est incroyable. Voilà. Et je pense que ça devrait intéresser beaucoup de monde. Et on est, je pense, à l'aube d'un vertical start-up sur ces sujets.
Ça, c'est d'un démarrage là. D'un ou d'un redémarrage.
Non, d'une accélération bien plus rapide, parce que ça a largement démarré. Jardin de Galie n'est pas une société qui s'est créée l'année dernière. Et puis voilà, les exemples sont très nombreux, mais ça va devenir le nouveau standard, parce que ça va être un usage.
Et ça va donc s'accélérer. Jeanne Godin, un petit peu de conclusion, voilà, moi je trouve ça assez positif. On a l'impression effectivement, voilà, on se désole souvent, on a des titres un peu alarmistes. On peut voir aussi qu'on peut faire quelque chose, que voilà, vous y travaillez activement.
C'est ça. Et là, on parlait d'une accélération, mais il faut savoir que la recherche sur tout ce qui est biodiversité en milieu urbain continue. On découvre toujours de nouvelles choses et qui enrichit la réflexion des décideurs et des personnes qui conçoivent. Mais y a aussi une thématique où on n'a pas parlé et qui est importante, c'est la gestion. Mmh. On conçoit des espaces que derrière on va devoir les gérer. Et c'est en gérant ces espaces qu'on va moduler cette biodiversité. Et dans le monde de la construction, quelquefois, il faut rester, j'allais dire, sobre, parce qu'on va concevoir des projets très très innovants, très intéressants, mais derrière, on n'a pas la gestion qui va derrière. On va
comme quoi, par exemple,
Des toitures végétalisées. On va créer des énormes toitures végétalisées qui vont avoir besoin d'être arrosées pour préserver les plantations faites sur cette toiture. Sauf que ça va demander énormément d'eau. Ça va demander de gérer tout un circuit d'arrosage. Et si derrière, on n'arrive pas à gérer ça, on va avoir des milieux urbains qui se créent, mais qui vont mourir. Mmh. Et donc, il faut aussi se donner les moyens de gérer cette biodiversité qui s'installe.
C'est vrai,
des membres de
l'Union des entreprises du paysage qu'on salue. Elle m'avait parlé justement de ces murs végétalisés qui étaient très jolis, qui avaient fait fureur. Et on en revient parce qu'effectivement, les plantes, ça c'est pas fait forcément pour pousser à la verticale. Et c'est extrêmement compliqué à entretenir, même si c'est joli. Pierre Darmé, sur ce sujet.
Je ne peux que souscrire en tant que jardinier. Lisez Usbek Erika à propos des startups qui nous dit en janvier 2022 « Bienvenue dans l'ère de la maintenance. On a invisibilisé tous les gens qui font la maintenance. Or, on investit des capitaux de manière très très forte pour innover. Il faut que cette innovation, elle dure, surtout lorsque nos ressources sont limitées. Faire moins mais mieux, c'est la règle aussi en matière de végétalisation, pour reprendre ce néologisme. Il faut concevoir en pensant comment ça va être géré et dans la gestion intégrer aussi l'animation, l'interaction avec les usagers. Pour une petite conclusion de mon côté, nous n'avons pas le temps d'être pessimiste. Donc, mettons en avant les solutions. Nous n'avons pas le choix, soyons réalistes. Et enfin, on parle beaucoup d'écosystème en disant qu'il y a un écosystème d'acteurs, etc. Le vivant, par essence, ce sont des interdépendances. On ne peut pas tout maîtriser, et ça m'amène à mon mot de la fin, c'est soyons humbles. Et c'est une petite pirouette parce que humilité, c'est la même racine qu'humus. Humus qui constitue le sol, c'est la dégradation de toute la matière vivante qui constitue ce lit qui donne la vie au sol dont nous parlait Guillaume Lemoine tout à l'heure. Donc, soyons optimistes, pensons large et soyons humbles.
Humble. Très bien. Et même on fait un peu de latin au passage. Guillaume Lemoine, un petit mot en forme de conclusion.
Un petit mot iconoclaste. Je dirais savoir s'inspirer du vivant. Je réagis sur deux propos avec beaucoup de sympathie des propos de Jeanne Godin. C'est quand on parle des toitures terrasses qu'il faut arroser, pourquoi il faut arroser les toitures terrasses? Le coteau calcaire, il n'est pas arrosé. La dune, elle n'est pas arrosée. À nous d'être intelligents et de recréer un milieu qui, naturellement, supporte une inondation ou un assèchement. Ça existe dans la nature. Notre erreur, c'est de vouloir essayer de créer un truc bidouillé avec de la croissance et des machins, avec des trucs... Voilà, moi, quand je me balade dans les dunes, c'est un tas de sable avec des végétations qui de temps en temps crament parce que ça crame et qu'elles sont adaptées. Et les tortues, elles sont capables de ressortir ou les, voilà. Donc ça, c'est mon premier. Le deuxième, c'était deuxième petit clin d'œil sur la gestion. S'inspirer du vivant. Quand je vous ai entendu parler de dire, on améliore des sols parce qu'on a des sols très crayeux, très pauvres et tout ça. La même chose. Gardez-les, ces sols pauvres. Vous aurez des végétations, des orchidées, des choses, des hélianthèmes, des polygales qui vont pousser sur vos sols pauvres. Pourquoi vouloir les rajouter avec la matière organique pour en faire des sols trophiques, des sols de production, si votre but c'est d'éviter que ce soit des sols de production? Si vous voulez faire des sols agricoles, évidemment, améliorez-les. Si c'est des espaces naturels, gardez ces sols pauvres, ça va limiter nos coûts de gestion. Vous aurez des croissances plus faibles, donc vous aurez des milieux qui vont se réchauffer, vous aurez des végétations thermophiles, vous aurez plus de fleurs, plus d'insectes, plus de trucs, plutôt que d'avoir un horrible matelas végétal de végétaux qui ont une croissance exubérante de type rudéral ou eutrophe. Donc moi, de temps en temps, je sublime, j'ai des fois des discussions difficiles avec d'autres personnes en disant gardez vos tas de cailloux, gardez vos tas de sable, il y a des abeilles qui nichent dedans, gardez ce qui ressemble à des landes acides, à des coteaux calcaires, à des dunes, c'est des milieux beaucoup plus rares que les terres eutrophes du bassin parisien.
Oui,
voilà, sublimons la différence, inspirons-nous du vivant.
Merci. Petit mot de conclusion, Guillaume Lazeau.
Ça me fait penser aux légumes moches, en fait, ce que dit monsieur.
C'est vrai, il faut le garder. Ils sont tout aussi bons.
Au sens positif, je dis ça bien sûr. Effectivement, parce que la tentation de tout le monde, c'est que le toit, on le trouve selon nos critères individuels jolis. Et donc le joli, ça suppose certaines choses, certaines espèces, et voilà. Donc il faut qu'on soit plus raisonnable. Mais vous avez raison, sur le long terme, il faudra arriver à éduquer tous les acteurs à être plus raisonnables et plus sobres. Si déjà on peut les embarquer pour tous s'y mettre, même si sur le chemin ils font des erreurs et parfois des mauvais choix que vous pointez en tant que sachant du sujet, ça sera déjà pas mal, et c'est vraiment ce qu'on doit faire dans les 3 prochaines années, hein.
Exactement. En tout cas, sujet enthousiasmant, biodiversité, voilà, qui est, j'allais dire, réintroduite dans la ville. Non, elle y est déjà. À nous de la laisser peut-être faire, en toute humilité. Merci en tout cas à nos experts en plateau. Jeanne Gaudin, chargée de mission écologie urbaine à la ville de Nanterre. Merci Jeanne.
Merci beaucoup.
C'était un plaisir. Pierre Darmé, directeur marketing, communication et développement commercial, les Jardins de Gailly. Merci Pierre.
Merci Fabrice.
À distance, Guillaume Lemoine, référent biodiversité, ingénieur écologique de PF Hauts-de-France. Merci à vous Guillaume et Guillaume Loiseau.
Merci.
Directeur bâtiment mondial du bâtiment et Bâti Radio. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Low Carbon Construction. À très bientôt.
Low Carbon Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio.